Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, avec Nathalie Lévy entourée des grandes voix pour décortiquer l'actualité de ce jeudi. Autour de vous ce soir, Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste, et Emmanuel Duteil, chef du service économie. Et bonsoir les grandes voix.
Bonsoir Nathalie.
Bonsoir,
c'est un peu reconstitution des
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Hein, Emmanuel Duteil, Ève Roger, Mickaël, qu'est-ce qu'on s'est parlé pendant ce confinement déconfiné? On est là tous ensemble pour se parler d'abord, Mickaël Darmon, de cette histoire des municipales, une histoire sans fin. Parce que hier soir, à la même heure, on se parlait de juin, et puis maintenant, on parle de janvier 2021. Mais jusqu'où on va comme ça?
Alors d'abord, déjà, hier soir, heureusement qu'on était prudents, hein, parce qu'on avait bien dit, hein, vous et moi, que ça allait encore continuer. Effectivement, possibilité de janvier donc 2021, si ça ne marche pas pour juin. On voit bien que maintenant, l'imbroglio est total. On ne sait pas exactement comment le gouvernement veut s'en sortir. Il n'y a pas de consensus politique. La décision, c'est une mauvaise décision, quelle qu'elle soit. Alors maintenant, si on évoque janvier, ça veut dire qu'il faudra peut-être faire campagne pendant le mois présidentiel des vœux, quand les maires sont tous avec faire le tour de l'administré pour faire les vœux, et les communes qui sont donc déjà impactées de ce point de vue-là. Et surtout, ça retarde, on le dira à chaque fois, hein, ça retarde la reprise de la relance, puisque tant que les collectivités n'ont pas relancé les contrats avec le BTP, eh bien, un pan très important de la relance économique sera absent. Donc, c'est quand même très intéressant de voir comment cette affaire est devenue vraiment
un embroglio. Vous avez entendu Hervé Morin politique. Exactement. Vous avez entendu Hervé Morin qui propose des municipales en zone verte dès maintenant et attendre un peu pour les zones rouges avec évidemment ce second tour de date. Donc.
Oui, de date, mais en même temps.
Ça paraît censé, ça peut exister.
Alors, ça paraît censé, je dirais, pour les gens de bon sens, mais vous savez, on est en état de droit. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une rupture d'égalité du scrutin devant
ce que je lui disais.
Voilà, devant
la juridiction, devant les
électeurs.
Ça n'a pas d'incidence.
Donc, de toute façon, on sait qu'il faut terminer au plus vite ces élections parce qu'elles sont hors normes. Elles resteront un problème. Mais tant que, on le répète, tant que Emmanuel Macron n'en a pas terminé avec ses élections municipales, il ne pourra pas ouvrir d'autres séquences politiques.
Alors, Ève Roger, parlons-nous de chloroquine et parlons-nous de Donald Trump, parce que décidément, il nous avait réservé des surprises, on ne peut plus, et alors là, on a encore passé un cap.
Ah oui, lundi, on a appris que Donald Trump prenait de la chloroquine par prévention tous les jours, un comprimé tous les jours par prévention, et alors bon, ça, on n'a pas été très étonnés en vrai. Et puis après, on a appris que Jair Bolsonaro, au Brésil, aussi avait demandé à son ministre de la Santé de faire des recommandations pour les malades légers, disons en forme modérée, pour qu'ils prennent de la chloroquine en avance. Et puis après, on apprend que Poutine aussi est plutôt adepte. Donc on a fait un lien entre Donald Trump, Jair Bolsonaro au Brésil et Vladimir Poutine. Mais pourquoi les populistes aiment-ils la chloroquine? Alors moi, en réfléchissant un peu, on peut imaginer plusieurs réponses. D'abord, c'est les trois pays les plus touchés au monde, hein, le Brésil, les États-Unis en nombre de cas. Donc ça fait déjà un point commun, c'est-à-dire qu'il faut trouver une solution. C'est des hommes politiques qui sont sans doute en train de jouer une partie de leur survie politique là-dessus. Mais l'argument le plus sensé que j'ai trouvé, c'est Nicole Bacharan, qui est spécialiste des États-Unis, qui dit « Les populistes aiment les solutions simples, les remèdes miracles. » Et d'une certaine façon, c'est vrai qu'on ne cesse de dire ici à quel point ce virus, cette épidémie est un mystère, on n'arrive pas à trouver des solutions, qu'on essaye, qu'on fait un pas à droite, un pas à gauche, etc. Là, au moins, quand on dit prenez la chloroquine, allez-y, il n'y a pas de discussion. Et puis, comme on n'a aucune preuve, alors on n'a aucune preuve scientifique que ça marche, mais on n'a aucune preuve scientifique non plus que ça ne marcherait pas. Donc au fond, finalement, ça peut peut-être fonctionner.
De toute façon, chloroquine, fake news, déni, c'est exactement leur fonds de commerce, Mickaël Darmon.
Et c'est vrai, solution simple aussi, avec un autre exemple, à Madagascar, vous avez le dirigeant qui, lui, brandit dans les meetings une fiole avec un produit miracle de quelle composition.
Et effectivement, c'est l'idée
de dire, effectivement, il faut en consommer. Ouais. Et l'incarnation que représentent ces leaders, eh bien, font qu'ils en prennent pour pouvoir également influencer leurs opinions.
Ouais. Emmanuel Duteil, j'arrive vers vous en avion presque. Les compagnies aériennes, elles décollent à tout petit rythme, mais elles vont y arriver.
Oui, effectivement, là, on commence à avoir des signaux un petit peu plus positifs sur l'activité du transport aérien. Alors, vous en parliez dès hier soir avec Alexandre de Juniac, qui était votre invité, qui est le patron, entre guillemets, de toutes les compagnies, puisqu'il représente l'entité qui fait du lobbying au nom de toutes les compagnies aériennes. Mais c'est EasyJet qui, aujourd'hui, a envoyé quand même un signal assez clair. Alors, attention, hein, on repart pas en Grèce tout de suite et on va pas revoir la mer tout de suite. Mais quand même, ils disent qu'ils vont faire revoler des avions dès la mi-juin. C'est-à-dire là, maintenant quand même, dans pas trop de temps. Ça va commencer par les vols intérieurs au Royaume-Uni, mais également en France. Donc ça y est, le mouvement commence à être enclenché. Ryanair avait déjà dit il y a quelques jours qu'a priori c'était plutôt pour juillet le fait qu'il allait pouvoir redémarrer. Un exemple tout bête, hein, Air France va reprendre son Paris-Athènes là d'ici quelques jours aussi. Donc vous voyez, à toute petite touche, ça va commencer à repartir. Mais pour ceux là qui seraient en train de nous écouter ce soir et qui se diraient hop, allez, je fais ma réservation, on part à Athènes. Non, il faut avoir une raison. Hein. Dans les airs, les 100 km fonctionnent aussi. Donc vous n'avez pas le droit de prendre l'avion si vous n'avez pas une raison pour aller à Athènes.
Ouais. Et puis je crois que c'est le quatrième trimestre hein, pour aller d'un pays à un autre, etc. Et ce type de voyage.
Oui, bah, c'est ce que vous disiez hier, Alexandre de Juniac, mais lui-même, c'est ses prévisions à lui.
Bien sûr.
C'est-à-dire que pour le moment, j'ai envie de dire. Personne n'en sait rien. Ouais. On voit que les pays rouvrent. Parce que par exemple, ce qui est compliqué pour certaines compagnies aériennes, c'est le lien avec la Grande-Bretagne. Bien puisque sûr. Si la Grande-Bretagne met vraiment à exécution le fait de mettre une quarantaine pour les étrangers une fois qu'ils arrivent dans le pays, bon, bah, ça change tout. C'est-à-dire qu'à un moment, là, par exemple, Air France pourrait pas reprendre convenablement ses vols vers la Grande-Bretagne, par exemple.
Merci. Alors, on se retrouve dans un instant, les grandes voix, bien sûr, avec d'autres questions et notamment la baignade et le Covid. Tiens, ça fait bon ménage ? Tout de suite.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
Et quand même une bonne nouvelle qui nous vient d'Ève Roger ce soir. Il y a des chercheurs qui sont passés par là avant vous. Des scientifiques, Ève Roger, mais quand même c'est vous qui nous la transmettez ce soir. C'est que du côté du Covid et de l'eau de mer, entre autres, voilà. et ben ça tilte pas. Et donc on peut se baigner.
On peut dire aujourd'hui qu'on peut aller se baigner dans la mer, pour plusieurs raisons, parce que alors, cette étude a montré qu'on a cherché dans les coquillages, dans des palourdes, dans des huîtres, dans des moules. On n'a pas trouvé de traces du SARS-CoV-2, c'est de l'Ifremer, des échantillons d'eau de mer non plus. Alors pourquoi on ne trouve pas de virus alors qu'on sait qu'on peut trouver le virus dans les eaux usées? C'est par ce biais-là qu'on pourrait imaginer que les virus pourraient arriver dans l'eau de mer. Et bien simplement parce qu'il y a une grande dilution hein, de l'eau et puis le sel évidemment, le virus ne doit pas beaucoup aimer le sel. Et ma passion sont les piscines, j'ai cherché aussi pour les piscines. Et en vrai, effectivement, le chlore aussi détruit le virus, les bactéries, donc il n'y a pas de problème. En revanche, la piscine est souvent un espace clos, fermé, confiné. Donc le risque, il est plutôt à l'extérieur de l'eau qu'à l'intérieur. Et puis j'ai cherché aussi les lacs et les étangs.
Bah oui, les rivières, etc.
C'est plus dangereux, un peu plus dangereux, parce que les lacs et les étangs ne sont pas les zones ne sont pas traitées.
Alors attendez, ça veut dire que les Français vont déserter les campagnes pour aller finalement sur les bords de la Méditerranée ou de l'océan.
Bon. Alors le risque des lacs et des étangs, c'est que les zones ne sont pas traitées, les surfaces sont plus petites, donc il y a moins de dilution. Donc la chercheuse de l'Ifremer dit attention, les lacs et les étangs, faut pas trop y aller. En revanche, évidemment, la mer, et ça me fait de la peine de le dire parce que moi je n'y suis pas, on peut y aller sans difficulté, sans inquiétude.
Voilà, pas de coronavirus détecté dans les coquillages ou dans l'eau de mer, ça c'est quand même la bonne nouvelle du moment. Michaël Darmon, alors comme on ne peut pas accéder aux plages parce que ça fait plus de 100 km, on aimerait bien au moins pousser les grilles des jardins et des parcs, les Parisiens entre autres, mais pas seulement, tous ceux qui se trouvent dans les zones rouges et qui aimeraient bien un petit peu de gazon.
Oui, grille fermée et différence de grille de lecture, on va dire, entre le gouvernement et la maire de Paris, Anne Hidalgo, son deuxième tour, mais qui est quand même apparemment en bonne position, et qu'en tout cas, c'est qui se comporte comme tel. Bref, elle porte le fer une fois de plus donc auprès du gouvernement, même auprès du président. Elle a rencontré il y a deux jours lors de la réunion avec les maires, en disant mais pourquoi vous n'ouvrez pas ces parcs et jardins? Parce que tout le monde, résultat des courses, se concentre sur les esplanades,
sur les esplanades, les bords de Seine.
Deux évacuations donc ce week-end, encore une à la mi-journée. Et alors que, je peux vous dire, les bois parisiens sont bondés, sont tout simplement bondés. Et là, il n'y a pas non plus de contrôle, alors que ça n'est pas moins bondé que lorsqu'on va aux Invalides. Donc, on est face à une incohérence gouvernementale. On entend depuis tout à l'heure maintenant des Parisiens se répandre en disant « mais on voudrait quand même, ça y est, vivre à la française, respirer, ça fait deux mois qu'on a été confinés, on a tenu, et il est vrai, avec beaucoup de raisons et de constance, ce confinement pénible pour des petits appartements. Sûr. Tout le monde n'a pas été dans les grandes maisons de banlieue ou les terrasses ou à la campagne. Donc quand même, il faut aussi quelque part rendre grâce
avec la chaleur
à ces Parisiens qui ont tenu le coup. Et on ne comprend pas en fait pourquoi y a-t-il cette
Ève Roger. Oui, mais parce que quand même les scientifiques ils plaident. Pardonnez-moi, Ève Roger, je me trompe peut-être, mais moi j'ai lu que les scientifiques plaidaient quand même pour une ouverture parce que il n'y a pas eu d'analyse dévoilant de contamination dans les extérieurs type parc, etc. Si non, alors,
les infectiologues disent déjà on est en zone rouge, donc faut pas oublier qu'on est en zone rouge. Oui. Ça veut dire et où est-ce que le virus circule aujourd'hui?
C'est le bois de Boulogne et bois de Vincennes, en zone quoi?
Alors c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus vaste.
Enfin, c'est quand même
rouge. Et puis, est-ce que le Parisien qui habite dans le centre de Paris va jusqu'au bois de Boulogne ou bois de Vincennes? Je ne sais pas. Donc, on est quand même la zone rouge. Le virus circule à Paris et dans le Val d'Oise. S'il doit rester deux départements rouges en France, c'est ces deux-là. Donc, il y a Paris. Et puis, c'est vrai que c'est offrir une possibilité aux Parisiens d'avoir l'idée d'aller se regrouper à plusieurs, d'aller boire de l'alcool et de ne pas plus respecter les gestes barrières. Donc ils disent juste soyez un tout petit peu patients. Ça, dans 15 jours, on devrait pouvoir.
On peut être aussi un peu responsable. On a entendu.
Est-ce qu'on n'infantilise pas les citoyens?
Une contradiction à la fois gouvernementale où les maires ont été mis en avant pour dire on vous fait confiance. Et on fait confiance aux Français, et tout d'un coup, on ne fait plus confiance aux Français.
Oui, mais vous, Michael, Nathalie ou moi, on est responsables parce qu'on est des adultes.
Eh bien, oui, mais
on a plus 16 ans, on a plus 18 ans.
Mais ça fait beaucoup de monde, en tout cas, sur les trottoirs. Et ça fait beaucoup d'enfants aussi, avec le bitume et la chaleur, qui souffrent de cette situation. Emmanuel Dutheil, ce fameux plan auto, on y vient d'ici 15 jours. Hein. On a déjà des informations sur, parce que Bruno Le Maire le présentera, on le sait, ce secteur très, très touché par cette crise. L'heure est à la relance, donc. Comment?
Oui, effectivement, parce que là, ce qu'on attend, il y a deux plans, hein, finalement, auto. Il y a le plan pour soutenir la filière, lui apporter de l'argent, hein, notamment du côté de Renault qui va avoir un prêt garanti de 5 milliards d'euros. Mais il y a aussi le plan pour que vous, Nathalie, Ève, tous nos auditeurs, Mickaël, aient à nouveau envie d'acheter des voitures. Parce qu'on aura beau faire le meilleur plan pour soutenir la filière, si on n'achète pas de voiture, ça ne servira à rien. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que ce plan va vraiment arriver d'ici quelques jours. C'est Les Échos, hein, le journal Les Échos, qui notamment se seront fournis quelques informations autour de ce plan auto, qui pourrait donc être annoncé en tout début de semaine prochaine pour celui-ci. Alors, c'est assez classique dans les idées, hein, puisque ça va être des aides à la conversion. C'est-à-dire, vous avez une voiture qui pollue, et si vous en achetez une qui pollue moins, vous allez être fortement aidé pour pouvoir acheter votre modèle. Mais ce qui est intéressant, et selon les informations des Échos, c'est qu'on pensait que jusque-là, parce que tout est vu par le gouvernement français à l'aune de la croissance verte, à l'aune de tout cela. Mais a priori, même si vous n'allez pas sur un véhicule obligatoirement électrique et tout ça, il pourrait y avoir quelques véhicules thermiques qui ne polluent pas trop, qui pourraient être concernés selon les Échos par ce plan. Donc là, il va vraiment falloir suivre, mais ce serait du coup beaucoup plus massif. Je peux vous dire que du côté des constructeurs, on attend ça avec une impatience folle, parce qu'il y a deux problèmes en ce moment. Il y a le fait que les gens ont entendu qu'il allait peut-être y avoir des aides.
Emmanuel, vous savez, on va se retrouver dans un instant, juste après une petite interruption, parce que chez vous, ça passe pas bien. Vous êtes un peu loin, au-delà des 100 km peut-être. Allez, à tout de suite, les grandes voies, on se retrouve. Et votre grand journal du soir sur Europe, avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voies jusqu'à 19h. Ève Roger. Les tests sérologiques, il y a une vraie ruée hein, sur ces tests-là. Remboursés sur ordonnance dès la semaine prochaine.
Alors avant que je vais vous expliquer deux secondes, parce que c'est vrai qu'on a tous, je sais pas tous mais beaucoup, on a eu des symptômes pendant ce confinement, un peu de toux, un peu de fièvre, et puis on n'avait pas le droit de se faire tester puisqu'il n'y avait pas ces tests. Et donc aujourd'hui, c'est un peu le juge de paix. On a le droit de faire ces tests sérologiques pour savoir si on a été malade et si on a fabriqué des anticorps.
Ça peut remonter, rappelez-moi, jusqu'à 3-4 mois.
L'idée, c'est que ça soit 21 jours après le début du symptôme. Si vous avez été malade il y a 21 jours, vous pouvez aller faire ce test.
Ça marche.
Parce que pouvez avoir des anticorps. Et c'est vrai qu'on a tous envie d'en avoir le cœur net. Hein, parce que est-ce qu'on a été malade? Est-ce qu'on l'a pas été? Est-ce qu'on est des hypochondriaques ou pas?
Vous avez fait le test ou pas?
Non. Parce que je vais. Pour la suite que je vais vous l'expliquer. C'est-à-dire que les tests sérologiques, on a envie de le savoir. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont fiables, qu'on n'a toujours pas la liste des tests qui sont fiables. Il y en a peut-être entre 8 et 10. Cette liste, on l'attend avant d'être remboursée. C'est ceux-là qui seront remboursés. Mais la Haute Autorité de Santé dit on rembourse, mais ça ne sert que dans certaines circonstances très précises, qui ne nous concernent pas, en tout cas pas autour de cette table, puisque ça concerne tous ceux qui ont été des professionnels qui ont été au contact direct avec le virus, c'est-à-dire les soignants, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, et c'est les soignants, mais dans les prisons ou dans les EHPAD. Donc là où il y a une grosse circulation de virus, parce que à cause de cette fiabilité du test, c'est-à-dire que s'il y a deux personnes en Bretagne, au fin fond du Finistère, qui vont faire le test, et ben en gros on sera dans la marge d'erreur. Alors que si vous êtes dans un EHPAD, un hôpital, il y a eu beaucoup, on peut faire beaucoup de tests. Donc ça c'est la première situation. Pour avoir droit à être remboursé. La deuxième, si c'est vraiment vous avez été vraiment, vraiment malade et que le médecin dit « Ok, je pense qu'il faut vraiment vérifier, c'est important, à ce moment-là, il peut vous le prescrire. » Ou bien si alors vous avez pu faire le test, mais que le test s'est révélé négatif. Voilà. Oui. Donc c'est dans ces deux situations-là, vous avez intérêt à le faire. Alors c'est vrai que ça fait de la peine à dire, mais en gros, ça ne sert à rien sinon.
Oui, ben voilà, c'est intéressant. Alors moi, je l'ai fait. Alors, je suis négative, hein, je vous le dis.
Et vous avez
mais je trouvais que la lecture n'était pas évidente.
Temps, hein.
Non, mais la lecture du résultat, elle n'est pas évidente. C'est pour ça d'ailleurs que les autotests sont pas recommandés. Hein. C'est ce que vous nous disiez aussi il y a quelques jours.
Ah oui, c'est ça.
Voilà, c'est vrai que c'est pas évident.
Mais vous l'avez fait toute seule
Non, je l'ai pas fait toute seule.
Parce
donc
que
j'ai confiance dans le médecin.
Il y a deux choses aussi qu'il faut savoir, c'est qu'on est immunisé maintenant. Je crois qu'il y a plus trop de débat. Il y a une immunité qui existe. Le problème, c'est qu'on ne sait pas pendant combien de temps.
Tout à fait.
Certains disent quand même quelques mois. Et puis surtout, on ne sait pas si on est encore ou pas contagieux.
C'est toute la problématique.
Donc, voilà.
Décidément,
donc,
on n'est pas au bout.
On a que des questions et très peu de réponses. À
exactement.
Tests.
Bon, Emmanuel Dutheil, on vous a retrouvé. Vous êtes bien en ligne. On file en Vendée. Voilà, on file en Vendée. Je crois que vous connaissez bien le Puy du Fou. Ça vous parle. Le Puy du Fou annonce sa réouverture pour le 11 juin. C'est vrai qu'il y avait eu il y avait eu cette guéguerre il y a encore quelques jours.
Alors, ce qui est déjà assez étonnant, c'est qu'ils l'aient annoncé eux-mêmes directement, et ils ont très clairement fait savoir que c'était le président de la République qui, par l'intermédiaire du secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, avait voulu leur faire savoir directement que le parc allait rouvrir. Alors, Mickaël connaît mieux l'histoire politique que moi, mais Emmanuel Macron et Philippe de Villiers, avant de se lancer pour la présidentielle, s'étaient vus justement au Puy du Fou. Emmanuel Macron semble avoir une sorte d'attachement pour le Puy du Fou, donc ils ont voulu envoyer un signal très clair. Donc, effectivement, ils vont rouvrir le 11 juin avec des gestes barrières extrêmement importants, hein, c'est-à-dire qu'il y aura moins de monde que ce qu'il peut y avoir habituellement dans les différents spectacles. Alors, je ne sais pas si Nathalie et les autres, vous êtes déjà allés au Puy du Fou, mais notamment la restauration est très connue pour son buffet. Là, ça sera, ils vont changer ça puisque ça va être un service de restauration qui sera totalement différent. Mais on voit que un peu comme tout à l'heure pour les compagnies, aériennes, que la vie est quand même progressivement en train de repartir, y compris du côté des parcs d'attractions.
Bon, alors l'art de la communication de Philippe de Villiers, on peut en parler aussi avec vous, Mickaël Darmon, parce qu'il y a d'autres parcs qui vont rouvrir. Il n'est pas le seul, en fait, parc d'attractions.
Oui, absolument. Donc, ça concerne l'ensemble des parcs et des lieux d'attractions et de loisirs. Ça, c'est la moindre des choses. Mais c'est vrai, Emmanuel a raison d'insister là-dessus. C'est quand même aussi, une fois de plus, là, je dirais, le signal qu'envoie Emmanuel Macron quant à sa relation assez particulière avec Philippe de Villiers. Effectivement, au début, avant sa campagne, il était allé le voir et ils avaient même longuement parlé et ils étaient tombés d'accord sur l'importance du roman national et de l'héroïsme, ce qu'on a vu après, effectivement, un thème très développé, souvent développé, mis en avant par le président de la République. Et puis, là, une fois de plus, l'Élysée avait fait savoir personnellement, par la voix du président, qu'il s'occuperait du Puy du Fou, qu'il ne laisserait pas tomber le Puy du Fou. C'est encore un signal, on va dire, bien entendu, politique, lié à l'importance de ce parc pour la scénographie nationale, l'héroïsme et tout ce qui fait effectivement l'histoire de France. Donc on voit bien que là, il y a aussi, au passage, une petite mention politique.
Exactement.
Dans la famille Villiers, eh bien définitivement le président de la République préfère donc Philippe de Villiers
et Philippe de Villiers n'a pas manqué
limogé,
bien sûr.
Était le chef d'état-major et qui avait été la première victime du quinquennat.
Et Philippe de Villiers n'a pas manqué de remercier le chef de l'État. Merci à Emmanuel Macron de son message chaleureux. Merci d'avoir transféré le dossier du Puy du Fou au Conseil de défense. Le Puy du Fou va revivre. Voilà, ça c'est fait. Donc
alors qu'il le récupérait quelques jours
avant. Exactement. Là c'était au complet. Merci beaucoup Mickaël Darmon, merci Emmanuel Dutheil et merci à vous Ève Roger les grandes voix.
Merci.